Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Joseph le 16 avril 1986.
Pouvez-vous repréciser la différence qui existe entre la fécondité et l'efficacité? Dans certains actes, ne peut-il pas y avoir association des deux, ou s'oppose-t-elle toujours, C'est bien évident que c'est dans l'analyse philosophique que nous faisons la distinction de la fécondité et de l'efficacité. Au niveau descriptif, vous ne pouvez pas faire la distinction. Même au niveau phénoménologique, vous êtes dans un aspect descriptif. Seule l'analyse philosophique qui distingue la cause efficiente de la cause finale peut faire cette distinction. Et c'est ce qui explique comment si facilement, dans l'ordre pratique, on se laisse emporter par l'efficacité. Et ça, ça a des quantités de conséquences dans l'ordre pratique. Même dans l'ordre apostolique. Vous arrivez à dire des pures et des absurdités de premier ordre dans l'ordre apostolique, dans cet ordre-là, en opposant le point de vue d'une vie donnée au Seigneur à l'efficacité de la vie apostolique. Alors vous faites les oppositions. Dans l'ordre pratique, c'est constant. Parce que vous n'avez pas vu la distinction. N'ayant pas vu la distinction, vous croyez que c'est identique. Et parce que vous croyez que c'est identique dans l'ordre pratique, l'efficacité passe toujours devant la fécondité. L'efficacité se mesure, la fécondité ne se mesure pas. La fécondité est d'ordre intérieur. On remonte à la source. Tandis qu'au contraire, l'efficacité, ça se mesure. C'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui se mesure puisqu'il y a une œuvre. Tandis que la fécondité, c'est-à-dire, ça se mesure par le fruit, oui, mais la fécondité est source du fruit. On pourrait dire, voyez, il y a un fruit et de l'autre côté, il y a une œuvre. Ça vous aiderait peut-être à comprendre. Mais l'œuvre peut être un fruit. Et il y a des œuvres qui ne sont pas des fruits. Alors là, ce sera un discernement intéressant à faire. Parce que dès qu'il y a fécondité, ça devient une œuvre, ça devient un fruit. C'est une œuvre, mais qui est portée par l'amour. La fécondité est dans l'ordre de l'amour. L'efficacité, nous le verrons, nous allons le voir du reste. L'efficacité implique l'amour, normalement. Donc toute efficacité devrait reposer sur l'amour. Ça n'arrive pas toujours. Depuis la canalisation, l'eau peut couler loin de la source. Normalement, l'eau provient de la source. Mais les canalisations éloignent le jet d'eau de la source. Alors vous comprenez ce que c'est que la fécondité et l'efficacité. Symboliquement. Selon un langage symbolique. Parce que toute fécondité me fait remonter à la source. L'efficacité, il suffit de la canalisation. C'est très efficace, la canalisation, pour irriguer des champs. C'est de l'ordre de la méthode, vous voyez. L'efficacité appelle la méthode, pas la fécondité. Pour aimer, vous faites appel à la méthode, ça prouve que vous n'aimez plus beaucoup. C'est ce que je disais ce matin. sceau. C'est pas très intelligent, mais c'est une efficacité prodigieuse. Prenez les contraires. Parce que c'est toujours intéressant de voir les contraires. Oui. La torture peut être efficace. Mais ça détruit tout. Il y a des méthodes thérapeutiques qui sont des tortures. Ça peut être efficace, momentanément, mais pas à long terme. L'efficacité peut avoir immédiatement détruire quelque chose. Comme la torture, ça peut avoir une efficacité, mais à long terme, ça ne paie pas. Parce que ça tue profondément la source. Ça envoie très très bien l'anti-efficacité, l'anti-fécondité, vous voyez ce que c'est. C'est pas la même chose. Alors, une autre question, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Parce que ça, c'est des questions tellement difficiles sur lesquelles il faut tout le temps revenir. Vous avez dit, alors ça c'est une question plus subtile, hein. Vous avez dit que tout amour en tant qu'amour n'avait pas de devenir. Oui. Comme l'être en tant qu'être n'a pas de devenir. Être et amour peuvent être au-delà du devenir. Et qu'on ne pouvait parler de croissance qu'au niveau de la passion. Ah, de croissance, de naissance. De devenir, c'est encore plus juste. Parce qu'on peut parler d'une croissance dans l'amour. Ça, c'est sûr. Notre amour spirituel croit. La confusion, elle est là. Et qu'on ne pouvait parler de croissance qu'au niveau de la passion, car elle est dans le devenir. Le devenir existe dans la passion. L'amour peut impliquer une croissance, mais l'amour, en tant qu'amour, est au-delà du devenir. Voilà ce que je voulais dire. Mais n'y a-t-il pas une croissance de l'amour spirituel en ce sens qu'il s'enracine de plus en plus dans notre volonté? Bien évident. Mais peut-être c'est une confusion entre la charité qui peut croître indéfiniment et l'amour spirituel aussi peut croître indéfiniment. Donc c'est pas une confusion. Alors, vous voyez, la confusion elle est là. C'est que je voulais préciser la ratio amoris, la raison de l'amour. Comme on précise l'être en tant qu'être. Mais l'être est toujours pour nous présent dans le devenir. L'amour pour nous est toujours présent et lié à la passion. Ne recherchez pas l'amour pur. Si vous recherchez l'amour pur, vous n'y arriverez jamais. Vous tuerez l'amour. Regardez dans Brémond la querelle de l'amour pur. Je vous ai déjà dit ce très bel exemple qu'il donne. Cette personne qui veut faire un don au curé des cloches et qui veut que ce soit un don de pur amour. Monsieur le curé, surtout ne dites pas d'où vous vient cette somme d'argent qui vous permet d'acheter les cloches. Mais monsieur le curé, ayez la bonté d'inscrire mon nom dans la cloche pour que chaque fois que le tympan tape, il tape sur mon nom. Voyez l'amour pur. C'est merveilleux comme exemple. Ça, il faut vraiment pour découvrir ça. C'est merveilleux. C'est. Réfléchissez à ça. C'est très très joli. Surtout qu'on ne dise pas d'où ça vient, mais pour que mon nom soit inscrit à l'intérieur de la cloche. Alors, comprenons bien, l'amour en tant qu'amour, c'est comme l'être. Il n'y a pas de devenir. Il est. Un beau jour, vous aimez. C'est curieux, c'est comme ça. Tandis qu'au contraire, l'amour humain, c'est plus l'amour tout à fait pur, l'amour humain passion. Vous pouvez faire une analogie entre les deux. Vous ne pouvez pas séparer l'être du devenir. Vous ne pouvez pas séparer l'amour de la passion. Quand il s'agit de l'amour existant dans votre cœur d'homme, dans votre volonté d'homme, vous ne pouvez pas séparer l'amour de la passion. Vous ne pouvez pas séparer l'être du devenir. Autrement, vous feriez comme Heidegger. Mais vous devez distinguer. L'amour spirituel n'est pas l'amour passionnel. Et l'amour, dans ce qu'il a de tout à fait pur, est au-delà de tout devenir. Quand j'aime, il y a quelque chose d'éternel. C'est vrai, l'amour spirituel a quelque chose d'éternel. L'amour comme amour a quelque chose d'éternel. Tout amour vient de Dieu. Il y a une étincelle d'éternité dans l'amour. C'est extraordinaire, c'est comme ça. Mais l'amour humain est toujours réalisé dans les temps. Il est toujours réalisé avec un certain devenir. Donc, il faut bien saisir ça. C'est important, vous voyez. Une fois de plus, comprenons l'analyse philosophique qui n'est pas une séparation. L'analyse philosophique, c'est distinguer les rationes. La raison passion n'est pas la raison amour. C'est une modalité de l'amour. Je distingue, je ne sépare pas. Parce que vous n'arriverez jamais à aimer sans qu'il y ait des éléments passionnels. Si vous voulez un amour tellement pur qu'il n'y ait plus de passion, vous tuez l'amour. Si vous voulez saisir l'être dans toute sa pureté en dehors du devenir, mais vous supprimez le devenir, vous supprimez l'être. Vous êtes obligé de le réinventer dialectiquement à la manière de Heidegger. Donc ça c'est très important. Alors réfléchissez sur l'analogie. L'amour est à la passion ce que l'être est au devenir. Et quand vous avez fait cette petite comparaison, vous comprenez alors comment la passion est toujours dans le devenir. Vous palpez une passion. Et vous la voyez grandir. Surtout au printemps. Ça pousse. Il y a le petit. Le matin, c'est le bourgeon. Et le soir, ou le lendemain, en plein midi, c'est la fleur. Et quand c'est une pivoine, alors vous comprenez, ça efface tout. Et l'amour prend tout. Alors ça, c'est la pivoine. Il y a un petit bourgeon. Tandis, quand il s'agit de l'amour spirituel n'implique pas de devenir. C'est pour ça que Platon confond, c'est l'épidumia chez Platon, dans le banquet. C'est un amour qui implique un désir, qui est lié à la passion éros. Et donc, il peut parler du devenir de l'amour, la naissance. Tandis que l'amour spirituel, comme tel, n'a pas de naissance. Il est. Mais l'amour humain, comme amour humain, ben, il a toujours une naissance. Parce qu'il est toujours lié à la passion. Et par la passion, il a une naissance. Alors, nous continuons cette analyse de l'amour spirituel qui donne naissance à la responsabilité, à l'éthique. Il y a ce premier amour radical qui est l'amour spirituel à l'égard d'un bien personnel. Cet amour va se transformer en intention de vie. Le bien devient fin. Alors je vous avais dit, là, une certaine induction pratique. Saisir l'amour comme fin, c'est saisir un principe. Tandis que quand vous saisissez le bien comme tel, vous êtes en face d'une réalité qui vous attire. morale, premièrement de la fin, c'est une morale de l'amour. Et l'intention va me montrer comment le bien pour moi est une fin que je ne possède pas immédiatement. Tout la recherche des moyens. Voyez, il faut bien comprendre comment vous avez ces trois dimensions qui vous sont immédiatement données à l'intérieur même de l'amour. L'amour est amour. L'amour est intention de vie. L'amour est capable de susciter en moi une préférence, un choix. C'est très curieux et ça c'est intéressant à bien saisir.
L'amour de préférence, je peux le préférer en fonction.
voix. Alors je prends toujours ce qui est plus facile. C'est facile à noter ça. Psychologiquement, c'est très très facile. Votre motivation, c'est vous. Et donc vous avez pris ce qui avait de plus facile. Ou votre motivation, c'est la fin. Alors à ce moment-là, peu importe la difficulté, je veux atteindre la fin. Et je prends le moyen qui est le plus adapté à cette fin. Ça exige un effort. Mais vous voyez tout de suite, un amour un peu facile de détente. Je préfère ça. Je préfère tel ou tel petit gâteau parce que je l'aime bien. C'est pas du tout parce que ça va me permettre d'être plus sain. Non, 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 non. À ce moment-là, la sainteté est obnubilée par l'amour de moi. Ce que dit saint Augustin, il y a deux amours, l'amour de Dieu ou l'amour de soi. L'amour de Dieu, c'est la fin, ou l'amour de soi. Réfléchissez sur tous les choix que vous faites. Les choix après le carême, c'est très net. Les petits chocolats après le carême, ça, c'est excellent, c'est merveilleux. Bon, c'est votre moi. Gustate et vide de cognam. On ne dit pas combien Dieu est bon. Non, non, combien j'aime de me détendre un peu après le carême. Donc, combien j'aime ce point de vue-là. Et je me délecte. Donc, l'amour du choix présuppose l'amour de soi et l'amour de la fin. Et c'est toujours en fonction de ça que je choisis. Et derrière, il y a le bien. Donc, vous voyez, dans une analyse phénoménologique, l'amour de préférence, le choix est premier, parce que c'est là où la conscience est la plus éveillée. Et je vois que ce choix implique autre chose. Dans une analyse philosophique, celle que nous faisons maintenant, nous sommes partis de l'amour d'amitié. Nous savons, tout amour d'amitié est un amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Nous découvrons que l'amour est un lien avec le bien, un bien personnel. Mais nous découvrons que cet amour qui me porte sur le bien personnel va impliquer tout de suite ou que ce bien est ma fin, ou que ce bien n'est pas ma fin. Et donc, je découvre si cet amour est capable d'être une intention. Ou si cet amour n'est pas capable d'être une intention de vie. Et je découvre à ce moment-là la distinction entre l'intention de vie et la préférence qui porte sur un choix, sur un moyen. Je crois que ça, nous pouvons assez facilement l'analyser et le comprendre. Et qu'est-ce que nous voyons alors dans cette analyse? Que l'intelligence, le jugement, prend une place toujours plus importante. La coopération d'intelligence est plus forte dans l'amour de préférence que dans l'amour à l'égard du bien. Et que l'intelligence est plus présente dans l'intention de vie que dans le simple amour à l'égard du bien. Je vois donc que dans la coopération intelligence-volonté, la coopération d'intelligence est toujours plus grande. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça me fait bien comprendre que l'intelligence n'est pas rivale de l'amour. Elle coopère à l'amour. D'autre part, ça me permet aussi de comprendre la place de la liberté. Ce premier amour qui porte sur le bien, il est au-delà de la liberté. Il est plus fondamental que la liberté. J'aime ce bien, j'aime cette personne. J'en suis pas libre. Je constate que je l'aime. Je choisis cette personne comme amie. Ah, la liberté est là. Je choisis cette personne comme fin. J'en suis libre. Je suis libre d'accepter. pour ça que de fait, on arrivera à préciser l'acte libre au niveau de l'exercice, l'acte libre au niveau du choix. Et ces deux grandes modalités de liberté sont très importantes à bien préciser. L'acte libre au niveau de l'intention est un acte libre plus radical que le choix. J'accepte ou je n'accepte pas de laisser cet amour m'envahir et m'envahir non seulement comme mon bien mais comme ma fin, donc comme un amour absolu, puisque c'est ça la fin, comme un amour absolu qui s'impose à moi comme quelque chose de fondamental et de primordial. J'aime et je transforme cet amour en intention de vie. Donc je mobilise toutes mes forces en vue de cet amour et pour cet amour. Il y a donc là une liberté qu'on appelle la liberté d'exercice. D'une façon classique, pas dans la philosophie moderne, ça c'est un terme scolastique, mais que je dois connaître. Je crois qu'aujourd'hui, il faut tout simplement dire la liberté fondamentale. J'accepte de me laisser prendre par ce bien. Liberté d'exercice. Oui, je ne choisis pas le bien. Je ne choisis pas l'objet. Mais j'accepte l'exercice de cet amour. J'accepte que cet amour m'envahisse, prenne possession de mon cœur. Devient alors pour moi une certaine fin. J'accepte que ce bien, qui est une personne, soit l'ami, ce qui me finalise. Et j'accepte que ce bien soit un moyen. Nostalgie de la liberté. Il n'existe que des actes. j'ai un cocktail de polarise pas mes forces. Il m'attire. Ah, il peut m'attirer d'une façon telle que j'ai l'impression d'être entièrement pris. Oui, ça c'est vrai. Et c'est à ce moment-là que je peux réfléchir en disant ce bien, j'accepte qu'il m'envahisse et qu'il devienne une intention de vie. Donc il y a une acceptation de la force de l'amour. De la puissance de l'amour, j'allais presque dire de l'efficacité de l'amour. La première efficacité de l'amour, elle est là. Cet amour peut mobiliser toutes mes forces. Ça, c'est l'efficacité. L'amour peut mobiliser toutes mes forces. Et quand l'amour mobilise toutes mes forces, et que je le reconnais, et que je l'accepte, je suis en face d'un premier acte libre. À l'égard de ce bien, à l'égard de cet amour, je me laisse emporter par cet amour, je me laisse prendre par cet amour, j'accepte, je dis oui, tandis que vous ne dites pas oui à l'attraction du bien, le bien vous attire, vous ne dites pas oui, le oui. C'est lorsque vous avez compris que ce bien vous attirait, et que c'était bon pour vous d'être attiré, et que cette attraction du bien sur vous s'exerçait d'une manière telle qu'il pouvait polariser toutes vos forces. Alors ça c'est le galop à ce moment-là, hein, qui nous prend et qui nous saisit. C'est le cheval au galop qui nous prend et qui nous saisit. On est capable de tout. Cette insertion de vie, je suis capable de tout. L'amour ne nous rend pas capable de tout. L'amour est affectif. La première efficacité qui apparaît dans l'amour, c'est le passage du bien à la fin. Vous voyez, c'est très intéressant ça, parce que il peut y avoir des gens qui sont finalisés sans amour. Les stoïciens, ils sont terriblement finalisés sans amour. C'est l'efficacité qui l'a emporté sur l'amour. C'est des gens qui ont une intention de vie. Une intention de vie. Coûte que coûte, mort ou vivre, ça n'a plus d'importance. Coûte que coûte, il faut y arriver. Alors c'est la volonté qui est nouée, et une volonté qui implique justement de tendre vers cette fin. C'est la volonté stoïcienne. Alors l'intention de vie l'emporte sur l'amour, et l'efficacité l'emporte sur l'amour. Je suis finalisé, mais c'est pas suffisant d'être finalisé. Il faut aimer. Il faut pas que la fin tue le bien. Il faut pas que l'intention tue l'amour. Oh, on verrait ici, n'est-ce pas, certaines spiritualités très nettes. Je les nomme pas, vous les savez. Certaines spiritualités qui sont des spiritualités volontaristes et qui sont des spiritualités d'intention. Alors ça tue l'amour. Là, vous n'êtes plus qu'en face d'une décision profonde de tendre vers la fin. Et vous tendez vers la fin. Donc il y a un passage très très important pour nous à bien saisir. Second moment de l'acte libre. Lorsque l'ami est choisi, ou lorsque tel moyen en vue d'aimer l'ami est choisi. L'ami peut être objet de choix. La fin peut être objet de choix. Ça, c'est extraordinaire. Et alors là, vous saisissez bien ce second moment de la liberté. Comment la fin peut-elle devenir objet de choix? C'est lorsque je vois que la fin peut être multiple. Ce bien que j'aime et qui est l'intention de vie, mais il n'est pas le seul, il y en a d'autres. Quand j'aime telle personne, il y en a telle autre. C'est bien évident, elle est pas seule. Alors parce qu'elle n'est pas seule, il faut la choisir. Et la choisir implique justement ce fait qu'il y a un certain ordre de préférence. Et on fait passer devant bel ami plutôt que tel autre, bel bien plutôt que tel autre, bel moyen plutôt que tel autre. Alors ça va très loin ça, vous voyez. Je prends l'ami, je peux prendre aussi les fraises. Je peux prendre aussi le petit gâteau au chocolat. Je peux prendre aussi tel vin plutôt que tel autre. Il faut voir la manière dont les gourmets choisissent. C'est extraordinaire de voir ça. Ils choisissent avec toutes les nuances possibles. Je vous dis, je suis sorti cette bouteille pour vous. Alors, il me donne toutes les explications du choix. C'est à ce moment-là qu'il faut choisir ce que c'est que le choix libre, la préférence. Cette bouteille qui était dans la cave au milieu de toutes les autres, subitement, prend un sort étonnant. Elle est revêtue d'une liturgie extraordinaire, merveilleuse. Et c'est le choix amical qui fait ça. Le choix libre. Vous lui avez donné un sort. Cette liberté de la fin à l'égard du moyen, et vous aimez souligner que c'est choisi en toute liberté. Vous ne direz pas c'était la dernière qui reste. À ce moment-là, toute la liturgie dégringole et toute la préférence dégringole. Quand c'est un très bon ami, il n'a pas de secret pour vous, il peut le dire. On ne le dira jamais devant quelqu'un d'autre. C'est bien évident. On ne le dira pas. C'est la dernière, mais ça n'a pas d'importance. C'était la préférée qui restait là en attendant providentiellement. Elle attendait. Vous voyez, la manière dont on choisit, c'est très très important. Parce que le choix est avant tout subjectif. Il a bien quelque chose d'objectif, mais il est plus subjectif qu'objectif. Et c'est ce qui fait comprendre ce que c'est que la liberté de choix. Et c'est ce qui fait comprendre comment vous pouvez, dans un choix, regarder aussi bien la vie. Regardez-le.
sujet peut donner à un moyen une valeur unique et peut se servir de l'absolu comme d'un moyen. Quand je choisis l'ami, je le choisis toujours en préférence avec tous les autres. Et le sujet joue un rôle très important grâce à l'intelligence. Une langue de philosophie.